L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. J'imagine que vous vous posez plein de questions sur les technologies, sur l'intelligence artificielle, de savoir si elles vont nous sauver, elles vont nous permettre de résoudre la crise climatique, ou est-ce qu'à l'inverse, elles polluent énormément. Y a une vraie question autour de la pollution numérique. Et aujourd'hui, je reçois une personne assez exceptionnelle qui s'appelle Luc Julia, qui est le cofondateur de Siri, donc cet assistant vocal que vous connaissez sans doute, mais qui est aujourd'hui également le CTO, donc le directeur technique, et également le SVP Innovation du groupe Samsung, donc au niveau mondial. C'est une conversation évidemment intéressante, extrêmement accessible, donc on ne part pas très loin, vous l'entendrez. Donc je vous souhaite une très bonne écoute. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour Luc.
Bonjour Guy.
Il y a deux personnes qui nous ont mis en relation, Caroline, qui est une auditrice de Vlan, et puis Aurélie Jean, que j'ai reçue plusieurs fois sur ce podcast. Toi, tu es l'une des personnes au monde qui connaît le mieux, je trouve, les technologies. On a eu une discussion intéressante ensemble sur l'impact écologique des technologies. J'aimerais bien commencer peut-être d'abord, puisque toi, tu as cofondé Siri, parler de ton image de ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'on peut penser de l'intelligence artificielle et aussi de tous les démons qu'on tourne autour de l'intelligence artificielle, que ça va remplacer tous les jobs, que on va bientôt inventer une intelligence type film Heure où il va y avoir une intelligence émotionnelle dans l'intelligence artificielle. Tu peux refaire un peu le point là-dessus selon toi?
Ouais, alors bon, pour aller rapidement, l'idée c'est vraiment de dire que l'intelligence artificielle dont on nous rebat les oreilles depuis, on va dire maintenant, allez, 5-6 ans, vraiment, cette intelligence artificielle-là, elle n'existe pas. Elle existe à Hollywood, elle existe dans les films, elle existe dans l'imaginaire de certaines personnes qui veulent nous faire peur, peut-être, mais l'intelligence artificielle, c'est pas ça. Et d'ailleurs, je préfère les appeler les intelligences artificielles, parce que c'est tout un tas d'outils qui nous permettent de faire des choses mieux. D'accord? Donc, les intelligences artificielles, aujourd'hui, ce ne sont que des mathématiques, des outils mathématiques, qui nous permettent de faire des tâches. Maintenant, est-ce que ça remplace certaines tâches? Est-ce que ça fait certaines tâches mieux? Oui, on va pas se cacher la face, c'est évident, mais toute technologie, depuis la nuit des temps, chaque fois qu'on crée un nouvel outil, c'est pour remplacer une tâche fastidieuse qu'on n'a pas envie de faire, etc. Et donc, effectivement, ici, on a la possibilité d'avoir ces outils qui remplacent certaines tâches. Ça ne veut pas dire que ça remplace des métiers. Il y a des métiers qui sont effectivement en danger dans le sens où toutes les tâches peuvent être remplacées. Donc, effectivement, ces métiers-là vont disparaître. Mais c'est encore une fois comme ça depuis la nuit des temps, et à chaque fois on a su, nous l'humanité, faire en sorte de s'adapter pour pouvoir créer des nouvelles tâches en fait qui vont certainement aider ces outils, qui vont utiliser ces outils, et la meilleure façon d'anticiper ces potentiels perte de tâches, perte de métier, perte d'emploi, la meilleure façon, c'est de s'éduquer et de comprendre comment marchent ces technologies et de savoir comment on va se mettre à côté de ces technologies et pour être meilleur avec ces technologies, pour faire en sorte de pas être inutile. Parce que de toute façon, à la fin, on n'est pas inutile, puisque c'est nous qui avons le cerveau quand même, hein. J'aime bien comparer les intelligences artificielles à un marteau, donc un simple outil dont on tient le manche. Et la vérité, c'est que ces IA, elles nous permettent de faire des choses. Encore une fois, un marteau, il nous permet de planter des clous, c'est super. Elles nous permettent aussi, où elles sont potentiellement dangereuses, dans le sens où le marteau, il peut être aussi utilisé pour taper sur la tête du gars d'à côté. Mais ça, c'est pas bien, évidemment. Donc les IA, comme tous les outils, ça peut être utilisé à bon escient et à mauvais escient. Donc à bon escient, c'est super, ça fait bien la tâche qu'on demande qu'elle fasse. Et maintenant, si on utilise à mauvais escient, il faut s'en rendre compte. Donc pour ça, il faut être éduqué et donc il faut réguler. Et donc, de temps en temps, il faut qu'on se mette tous d'accord, ou il faut avoir une éthique personnelle, une éthique d'entreprise, une éthique d'État, des lois qui vont faire en sorte qu'on va réguler ces intelligences artificielles, la façon dont on les utilise. Et donc, du coup, comme tous les outils, on va expliquer comment tenir le manche.
Super. Ça, c'est vraiment important de le noter, parce que je trouve qu'il y a tellement de personnes qui essayent de faire peur sur l'IA que je pense que c'est un discours qui est indispensable. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui parlent de stupidité artificielle ou d'intelligence augmentée pour bien signifier que cette intelligence, entre guillemets, ne va pas remplacer les émotions, et que finalement, il y a sans doute tout un pan d'intelligence émotionnelle à développer, je crois, pour l'humain, en fait, parce que l'intelligence artificielle n'ira jamais vraiment sur l'émotionnel.
Ouais, alors bon, il faut moduler un peu. Donc, effectivement, dès qu'on parle, par exemple, on va parler de voix, hein, puisque on parle de Siri tout le temps. Donc, je vais parler un tout petit peu de Siri, et puis tu as commencé par parler de Her au départ. Donc, Her, effectivement, c'est de la science-fiction, hein, donc ça, c'est du grand n'importe quoi. Je vous conseille fortement de ne pas tomber amoureux de votre assistant vocal, hein, ça ne sert à rien. Mais donc, il y a quand même quelque chose de relativement intéressant là, parce que ces technologies, ces intelligences artificielles, peuvent très bien détecter les choses que nous-mêmes, on n'est pas capable forcément de détecter. On voit ça avec les imageries médicales, avec des choses comme l'analyse de l'ADN. Donc tout ça, bon, on peut comprendre un peu que c'est des domaines très scientifiques, un peu pointus et tout ça. Mais même dans l'émotion, il y a des façons de reconnaître dans la voix, par exemple, des émotions. Donc on peut très bien avoir des reconnaisseurs vocaux qui vont détecter un peu l'émotion des gens, et donc de jouer avec ça. Jouer, c'est pas péjoratif, là, en l'occurrence, c'est de jouer avec ça dans le sens où on va s'adapter, on va adapter les systèmes à la façon dont les gens, quand ils se sentent d'une certaine façon. Donc on peut imaginer, par exemple, pour des patients atteints d'Alzheimer ou je ne sais pas quoi, qu'il y ait des aides, qu'il y ait des assistants, parce qu'encore une fois, c'est des outils, tous ces machins-là. Hein. Donc on peut très bien imaginer qu'il y ait des aides, des assistants qui s'adaptent en fonction de ça et qui seront eux jamais fatigués, parce que c'est quand même que des robots. Donc, quand on dit qu'il y a zéro émotion dans les IA, c'est modulable, encore une fois, parce que ça dépend. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir inventer des émotions? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'inventer eux-mêmes? C'est là où les IA ne s'inventent pas. C'est là où c'est nous qui avons, encore une fois, le contrôle de ce manche.
Totalement. Et alors, il y a une deuxième question, et c'est le sujet qui m'intéressait le plus, finalement. C'est vraiment l'impact écologique. Il y a beaucoup de personnes qui défendent de manière assez forte, et toi tu es dans la Silicon Valley, donc je pense que tu vois ça de manière assez régulière, que les technologies vont nous sauver et seront la solution, sinon une partie de la solution, à la crise écologique. Dans le même temps, on voit bien que ce soit la blockchain ou l'IA ou plein d'autres choses consomment énormément d'énergie. J'aimerais bien avoir aussi ton point de vue là-dessus et qu'on discute vraiment de ce sujet-là. Moi, ça m'intéresse particulièrement.
Ouais. Alors bon, pour être clair et pour donner la conclusion tout de suite, ce qui va nous sauver, c'est nous. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'IA qui va nous sauver, parce qu'encore une fois, l'IA, c'est nous qui la contrôlons. Et donc, l'IA en tant qu'outil, elle peut certainement être utilisée pour aller trouver des solutions, d'accord ? Donc, on va aller chercher des solutions, mais déjà, il faut comprendre le problème. Et comme tu viens de le dire, le problème, les IA, la blockchain, les technologies, c'est déjà un problème. Donc, pourquoi on dit ça ? C'est assez simple à comprendre. Quand on regarde, par exemple, bon, je ne vais pas parler de la blockchain tout de suite, parce que y a plein de gens qui comprennent que c'est une aberration écologique. Mais je vais parler donc des IA qu'on connaît, dont on nous a parlé depuis des années. On va commencer par celle peut-être qui, en 2016, a battu le champion du monde de Go. D'accord. Alors c'était très intéressant. On a eu une machine qui a battu le champion du monde de Go. Bon, à quoi ça sert, j'en sais rien. Mais c'est pour montrer que la machine est entre guillemets intelligente. Il n'y a pas beaucoup d'intelligence là-dedans, mais bon, il y a beaucoup d'automatismes, beaucoup de choses qui ont été programmées avant, beaucoup de choses qui ont été apprises à la machine dans le sens où on lui a donné beaucoup de données. Et c'est là le problème. Le problème, c'est le beaucoup de données, ce qu'on appelle le big data. Le big data. Par définition, il faut qu'il y en ait beaucoup de données à un endroit particulier. L'endroit particulier, en l'occurrence ici, ça va être ce qu'on appelle les data centers, les centres de données, je ne sais pas comment on dit en français. Donc, les data centers, on y recueille énormément de données. Et ces data centers-là, eux-mêmes, ce sont des aberrations écologiques. Pourquoi ? Parce que 60% de l'énergie qui est utilisé dans les data centers, c'est pas pour stocker les données, c'est pas pour calculer sur ces données, c'est pour refroidir les machines. Parce qu'il y a tellement de serveurs qui sont les uns à côté des autres que ils créent leur propre chaleur, et donc en fait on se retrouve avec 60% de l'énergie utilisée qui est juste pour refroidir. C'est pour ça que vous entendez certainement dire de temps en temps que on essaye d'aller mettre les data centers en Islande, on essaye de mettre les data centers sous l'eau. Donc ça, déjà, c'est un gros problème. La centralisation des données, ces data centers, il faut trouver quelque chose. Alors, je ne vais pas donner tout de suite des solutions, parce que je n'en ai pas forcément, mais c'est un des aspects qu'on peut facilement comprendre et qu'on peut certainement essayer de moduler, de modérer, dans le sens où on va pouvoir certainement décentraliser un peu ces data et faire en sorte qu'on ait une meilleure distribution des données près de là où on peut faire les calculs. Donc ça, c'est quelque chose auquel on peut penser, à laquelle on peut penser, et on verra. Mais une autre aberration dans l'IA, c'est le calcul lui-même. Je reviens à cet exemple du Go. Quand on regarde la machine qui s'appelle DeepMind et le programme AlphaGo qui tournait sur DeepMind pour battre le gars au Go, cette machine, quand on la regarde bien, c'est 1500 CPUs. Et CPUs, c'est quoi ? C'est les puces, les puces qu'il y a dans les ordinateurs. Donc 1500 puces, c'est 300, ce qui s'appelle des GPUs, c'est des puces un peu plus grosses qui font des calculs matriciels qui sont importants pour faire ces IA. Et puis d'autres encore puces qui s'appellent les TPUs, qui sont encore plus puissantes. Donc en gros, c'est 2000 puces. Et en gros, c'est 2000 ordinateurs. D'accord ? Donc 2000 ordinateurs pour jouer au Go. Okay ? Et maintenant, on va regarder en pure énergie ce que ça veut dire. 2000 ordinateurs, ça veut dire à peu près 440 kilowatts. 440 kilowatts pour jouer au Go. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est mais quelle est l'énergie que nous humains, nous dépensons quand on joue au Go, D'accord ? Donc, quand on va regarder maintenant le cerveau du champion du monde qui est en face, ou notre cerveau à nous, hein, on a tous à peu près le même. Nous, quand on fait une tâche, quelle qu'elle soit, on dépense à peu près 20 watts. 20 watts. D'accord ? Donc, on a créé des machines. Une machine, en l'occurrence ici, quand je parle de celle qui joue au Go, on a créé une machine qui dépense 440 kilowatts pour jouer au Go, quand le gars en face qui joue contre lui dépense 20 watts. Et en plus, lui, il fait d'autres choses que jouer au Go. Tandis que la machine qu'on a créée, elle ne fait que jouer au Go. D'accord ? Donc là, on a aussi une aberration quelque part qui est stupide. Je veux dire, on crée des machines hyper puissantes pour faire des tâches finalement pas très intelligentes et très, très, très focussées. Je ne sais pas comment on dit en français.
Non, mais ouais. Focussées, ça marche. Enfin, je pense.
J'ai pas de mots. Mais bon, donc on crée ces machines qui sont donc foncièrement. Enfin, qui sont donc inutile dans le sens où bon, celle qui joue au Go, elle est vraiment inutile, mais donc qui n'ont strictement rien à voir avec notre intelligence, qui elle fait des choses absolument fantastiques avec seulement 20 watts. D'accord ?
Mais alors, la réponse qu'on va te donner, et de toute façon, enfin, je veux dire, c'est pas comme si tu bossais pas dans la technologie, donc tu l'as aussi, c'est-à-dire que bien sûr, on peut utiliser l'IA pour jouer au jeu de Go, mais c'est plutôt, je pense que les personnes qui font ça, c'est plutôt pour, pour le coup, j'ai pas l'expression en français, mais make a point, bref, pour faire pour prouver quelque chose, merci. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut utiliser l'IA, par exemple, pour réduire sa facture électrique, pour en optimiser finalement. Donc il y a aussi cette partie-là. Donc en général, ce que les gens qui sont pro technologie vont te répondre, c'est que évidemment, l'IA, mais aussi la blockchain, les bases de données, etc., peuvent être utilisées pour réduire les factures d'énergie.
Tout à fait. Donc, et ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, on va utiliser la technologie de temps en temps juste pour make the point, comme tu as dit, pour prouver quelque chose. On va l'utiliser pour quelque chose qui est relativement facile, et puis après, on va l'appliquer à quelque chose qui est plus compliqué. Comme on disait tout à l'heure, ça peut être très utile pour la médecine. Je veux dire, moi, je suis un pro... utilisation de l'intelligence artificielle dans la médecine. Parce que quand on voit, par exemple, l'ADN, c'est un champ statistique absolument extraordinaire. Hein. Bon, s'il fallait qu'on fasse à la main tous les calculs pour pouvoir trouver des problèmes dans une séquence ADN, c'est quand même assez compliqué. Et évidemment, là, c'est des statistiques, c'est des mathématiques. Les intelligences artificielles, une intelligence artificielle spécifiquement pour l'ADN va être très, très bien pour ça. Les bénéfices qui vont être retirés par cette intelligence artificielle qui va aller chercher un cancer ou trouver un cancer, c'est effectivement quelque chose qui n'a pas de prix. Donc c'est intéressant, on va pouvoir pousser. Mais par contre, aller faire des IA qui vont aller trier les CV pour faire en sorte de faire des erreurs en plus sur la façon dont ils vont trier, aller faire des IA qui vont aller déterminer si on donne un crédit à telle ou telle personne et on se rend compte que ça donne un crédit double à un homme par rapport à une femme. Donc ces choses-là, c'est quand même relativement embêtant. D'accord ? Donc il faut à un moment réguler, savoir... comment et pourquoi on va utiliser ces technologies. C'est ça que je veux dire quand ces technologies sont parfois inutiles. Mais évidemment, parfois, elles sont très utiles. Mais maintenant, vas-y, je te laisse.
Non, j'allais dire, comment tu fais pour... Parce que la régulation, oui, mais on se rend compte que des entreprises comme Facebook ou d'autres, enfin, je pense aux GAFA, Amazon, Google, sont tellement puissantes qu'aujourd'hui, la régulation, on voit bien qu'elle n'arrive pas, en fait, aux États-Unis ou en Europe, d'ailleurs.
Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas aussi pessimiste que ça. Le problème de la régulation aujourd'hui, c'est qu'elle arrive très en retard. Mm-hmm. On peut prendre le cas de RGPD, par exemple. Pour moi, RGPD, c'est un cas très, très intéressant. RGPD, bon, vous savez, c'est arrivé en mai 2018 en Europe. Mm-hmm. RGPD a eu une vertu éducative extraordinaire. Bon, c'est une régulation, elle est arrivée effectivement 20 ans après les premiers problèmes qu'elle adresse. Les problèmes que RGPD adresse, les problèmes de vie privée sur Internet. Et bon, il y a des gens qui se sont foutus à poil sur Internet dans les années 2000, d'accord ? Et ils ne s'en sont pas rendus compte et ils ont payé le prix. RGPD a adressé ça en 2018 et ça a permis à quelques personnes qui n'avaient pas réalisé que c'était un problème de réaliser qu'effectivement il y a quelque chose là. Donc la régulation a la vertu éducative, c'est longtemps, qui n'est pas mauvaise. Le problème, c'est que comme on vient de dire, la régulation arrive très très en retard par rapport à l'innovation, par rapport aux technologies elles-mêmes. C'est pour ça que moi je suis un fervent défenseur de l'éducation, parce que si on éduque non seulement les gens, mais aussi du coup les régulateurs, la régulation va arriver beaucoup plus vite et donc du coup va permettre de faire les bons choix. Alors là, je suis optimiste évidemment quand je dis ça, mais il faut penser que les éthiques personnelles et les éthiques globales, les éthiques d'un groupe, vont être mises en place grâce à une éducation. Et donc, je pense que si on s'éduque, si on comprend ce qu'on fait et ce que font ces technologies, à ce moment-là, on va pouvoir prendre les bonnes décisions et on va pouvoir décider par une régulation que telle ou telle technologie est utile et que l'autre l'est moins. Alors évidemment, là, ça pose d'autres problèmes éthiques eux-mêmes, qui a raison, qui fait le choix, etc. C'est pour ça que pour moi, la meilleure éthique, la meilleure régulation, elle vient d'une démocratisation de l'éducation, parce que c'est la démocratisation aussi, c'est la décision démocratique d'aller vers une direction.
Mais alors moi, ce que je trouve aberrant dans la Silicon Valley, mais de manière plus générale, c'est que on utilise des cerveaux brillants. Je pense à des data scientists, je pense à des gens qui font des sciences molles, donc des sciences humaines, comprendre le cognitif, etc., pour finalement aller grignoter du temps d'attention, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat ou autre. En fait, finalement, il y a des cerveaux brillants qui bossent sur des choses qui ne sont pas si importantes, parce qu'en fait, ils vont là où il y a de l'argent, c'est-à-dire dans le modèle publicitaire. Est-ce que tu penses que ça peut se faire par la régulation? C'est-à-dire, comment tu fais en sorte que ces personnes qui sont totalement brillantes, on utilise leur cerveau pour faire quelque chose qui soit pour qui permettent finalement de réduire l'impact environnemental des technologies, parce que en fait globalement le sujet là c'est la pollution numérique.
Tout à fait. Bah, alors là c'est un problème. Je ne vais pas te cacher que c'est un problème. Et donc pour moi encore une fois là il faut éduquer les gens pour que les gens qui aujourd'hui tombent dans le, alors je vais pas être anti Facebook complètement, mais qui tombent dans le piège de Facebook, on va dire, d'accord, il faut que ces gens là se rendent compte un jour ou comprennent quelle est la vraie valeur de Facebook, qu'est-ce que ça leur apporte, d'accord. Donc il faut que ce soit une négociation quelque part. Donc si ça m'apporte énormément de choses du point de vue social, etc., bon, peut-être, mais il faut que quand même je comprenne à un moment que c'est pas gratuit et que il y a quelque chose que je donne, et peut-être que je donne beaucoup trop que ce que je reçois. Donc ça, c'est quelque chose que j'espère à un moment donné les gens vont comprendre, et donc ça fait partie de l'éducation. Et donc du coup, c'est vrai que si on se rend compte que les valeurs de ces choses là sont pas si importantes que ce qu'on a voulu nous faire croire, on va se retourner et se retrouver vers des choses beaucoup plus fondamentales et beaucoup plus importantes, telles que la médecine, le transport, des choses comme ça, qui peuvent effectivement avoir un impact beaucoup plus important. Mais encore une fois, aujourd'hui, une partie de la population, une grosse partie de la population, parce que si on parle de Facebook, encore une fois, c'est quand même à 1,4 milliard d'utilisateurs, je pense, un truc comme ça aujourd'hui, enfin, du moins, c'est ce qu'ils disent. Est-ce qu'il y a 1,4 milliard d'utilisateurs qui trouvent que vraiment ils trouvent un intérêt dans cette plateforme? Bon, moi ça me surprend, mais quelque part ces gens-là ils y trouvent quelque chose. Donc il faut peut-être les éduquer pour montrer que il y a peut-être pas grand-chose derrière, et il faut peut-être les éduquer pour montrer que si on utilisait cette énergie à autre chose, ça serait beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant pour la planète.
Et j'imagine que tu as la même vision pour le réseau 5G. C'est vrai que le réseau 5G, il est très décrié, mais moi souvent ce que je trouve gênant dans les discours sur les technologies, c'est que c'est souvent des visions très binaires. D'un côté, on y dit la 5G c'est génial, ça va aller vachement plus vite, et souvent l'exemple qu'on prend, c'est pouvoir regarder un film de manière instantanée quasiment, voilà. Et puis de l'autre, des personnes qui vous disent, non mais vous vous rendez compte, le réseau 5G, ou là je parle de la 5G, mais ça peut être l'IA, ou ça peut être une technologie XY, vous vous rendez pas compte de la pollution que ça génère. Et moi ce que j'aime bien dans ton discours, c'est que c'est un discours justement raisonné, beaucoup plus complexe, parce qu'on peut avoir une vision ou une approche, j'ai envie de dire, raisonner en fait sur l'impact de ces technologies. La 5G, ça peut aussi servir à des choses très positives, je suppose.
Ouais, c'est comme tous les outils, encore une fois, si tu veux. J'ai du mal à dire la 5G, c'est super, parce que bon, je ne comprends pas forcément aujourd'hui ce que ça va amener, surtout sur les téléphones. Hein, avoir un téléphone 5G pour avoir une image en 8K au lieu d'avoir une image en 4K, moi, franchement, je ne vois pas la différence. Hein, il y a des choses, effectivement, on nous raconte, on va nous vendre, on va nous survendre ces machins-là. Maintenant, est-ce qu'il y a dans un domaine industriel, est-ce que la 5G va être utile pour une usine, pour qu'elle crée son propre réseau local et faire quelque chose de beaucoup plus performant pour ces machines en local? C'est certainement le cas aussi. Et ça, c'est plus une histoire de débit, une histoire de latence. Donc, il y a certainement des intérêts, mais c'est vrai que cette version binaire, cette vision binaire qu'on a des technologies est en général stupide, parce que c'est pas tout noir et pas tout blanc. Hein. Donc, il faut effectivement trouver un middle ground, il faut trouver quelque chose au milieu qui soit quelque chose de négocié et qui soit, encore une fois, et je reviens toujours à la même chose, je répète toujours la même chose, c'est quelque chose qu'on décide tous ensemble et qu'on décide, donc on en a vraiment besoin, et c'est quelque chose qu'on va devoir réguler, et pour faire ça, il faut s'éduquer. Si on ne comprend pas ces technologies, si on ne comprend pas, je ne demande pas qu'on comprenne les trucs très très en profondeur, mais comprendre en général, comprendre que c'est pas de la science-fiction, comprendre que c'est des trucs qui sont complètement sous notre contrôle, juste ça, ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions ensemble. Je crois en l'humain, moi, foncièrement, donc je suis peut-être un peu trop optimiste sur l'humain, mais depuis la nuit des temps, à chaque fois qu'on a eu des trucs limites, où vraiment on a poussé les choses, on est devenu raisonnable à un moment donné. Alors pas longtemps, hein, parce qu'on n'est jamais très très raisonnable, mais je vais prendre l'exemple tout simple de la bombe atomique. Il faut quand même être très clair, dans les années 60, on a quand même failli faire péter le monde, d'accord ? On était tout près, les Russes et les Américains, ça se passait pas très très bien, on va dire, d'accord ? Donc, on a eu quand même, parce qu'il y a eu une prise de conscience, on a eu quand même finalement ce qui s'appelle les accords SALT, les accords nucléaires. Alors ils sont respectés, pas respectés, ça c'est un autre débat. Mais dans les années 70, dans les années 80, SALT 1, SALT 2, d'accord, ça a été un pas très très important pour l'humanité de dire, ben, les gars, on va réguler tout ce qui est armes nucléaires et on va se calmer un peu. Et l'URSS et les États-Unis ont signé ça et le monde évidemment a suivi. Donc, je crois en l'humain, je crois qu'on peut faire quelque chose, mais pour croire en l'humain, il faut vraiment pas qu'on devienne des idiots. Alors, pour ça, j'aime bien citer un film qui s'appelle L'Idiocratie, d'accord ? C'est un film complètement idiot, hein, justement, ça tombe bien. C'est un film complètement stupide, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il dure qu'une heure cinq, donc c'est pas très, 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 très long à regarder. Et ce film, il montre qu'on peut tout lâcher. C'est-à-dire qu'on peut effectivement devenir une société d'idiots où seulement les gens qui sachent, les sachants, vont être en charge, et donc eux ils vont bien en profiter, et nous on devient complètement idiots et on se laisse aller et on laisse gagner la technologie entre guillemets, parce que la vérité c'est que c'est les sachants qui contrôlent la technologie. Donc c'est pour ça que l'éducation est importante, pour pas devenir idiot et pour pouvoir faire en sorte qu'on comprenne tous comment ça marche et pour que tous on participe à ces décisions.
Alors à ce stade j'ai deux questions, du coup c'est qui donne cette vision commune? D'où elle sort cette vision commune? Et après, c'est comment on fait en sorte que cette éducation arrive? Comment? Parce qu'en fait, on peut dire aux gens, ce serait bien que vous éduquiez, mais ça marche. Tu sais bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, comment on fait ces deux éléments-là? Qui donne cette vision commune et comment on fait pour éduquer les personnes sur ces problématiques?
Ouais, alors bon, ça c'est un peu compliqué évidemment. Alors la vision commune, pour moi, elle est donnée par la communauté. D'accord, c'est justement parce que c'est la vraie démocratie. Justement, c'est ça la démocratie. La vraie démocratie, c'est que tout le monde est capable de venir mettre son grain de sel et d'apporter sa pierre à la communauté. Donc l'éducation doit être commune, doit venir de la communauté. Donc ça, c'est l'idéal. C'est un idéal, je sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est évidemment pas facile à réaliser. Maintenant, comment on arrive à une éducation en général? Eh ben, je trouve, alors, notre éducation en France est souvent décriée, on se jette la pierre en permanence. Moi, je trouve que justement, on est pas mal en France. On a quand même un système éducatif qui est pas trop mal. Alors, attention, justement, pour cette histoire de communauté, on n'est pas très fort à garder tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc on a certainement un problème d'inclusion, d'accord ? Mais ceux qui passent le pas, donc c'est quand même à peu près 80%, 90% des gens qui restent dans ce système et qui collent au système, à ce système éducatif, on se retrouve avec quand même des gens relativement bien éduqués, donc d'un bon niveau, d'accord ? Le problème, c'est d'être sûr qu'on rattache les wagons de ceux qui décrochent. Donc, encore une fois là, l'éducation doit venir par quelque chose que nous voulons. Nous voulons, nous, en tant que citoyens, en tant que groupe, et nous réclamons, encore une fois, aux régulateurs. Alors, je vais être un peu dur pour mon pays d'adoption, là, qui est les États-Unis. La vérité, c'est que les États-Unis, par contre, exprès, on a lâché sur l'éducation. Donc ça veut dire quoi ? C'était dans les années 80, dans les années 90, on a lâché sur l'éducation pour justement un peu bêtifier la population et pour arriver à la situation dans laquelle on est aujourd'hui et d'élire un Trump. D'accord ? Donc c'était un peu... je ne sais pas si c'était complètement voulu, mais quelque part, c'est dangereux. Et donc, de faire en sorte d'être sûr que les gens sont assez éduqués pour comprendre leur situation eux-mêmes, c'est quand même vachement important. Mais comment on le fait? J'ai pas la solution, mais je pense qu'on a des pays comme la France qui a un niveau qui est tout à fait correct. Et c'est pas nouveau, hein, on fait ça depuis les années 1600, 1700, on est quand même pas mauvais.
Et alors, Toi, tu bosses dans la tech, on peut pas dire l'inverse. Hein. Comment tu gères cette forme de contradiction entre ton discours finalement, ce que tu penses, et puis ton métier parallèlement. Comment quelqu'un qui bosse dans la tech arrive à gérer cette cette contradiction finalement.
Ouais. Bah, c'est une question d'éthique. Hein, c'est une éthique personnelle. Donc, je te dis pas que j'ai toujours compris exactement quels étaient les impacts de ce que je faisais. D'accord? Donc, il y a 20 ans, tu m'aurais dit, Internet, ça va être un problème au point de vue purement énergétique. J'avais pas la conscience de ça. Cette conscience, je l'ai prise, au fil du temps, il y a peut-être une dizaine d'années, quand j'ai commencé à réaliser que le big data, effectivement, ça prenait énormément d'énergie. Donc, maintenant, je m'applique une éthique personnelle. Et cette éthique personnelle, je la fais passer dans mes recherches, dans ce que je fais, dans les choses que j'essaye de produire. Et je la fais passer aussi dans mon groupe. Mon groupe étant les gens qui travaillent avec moi. Et puis, j'essaye de les faire passer dans les compagnies où je passe. Alors, c'est pas facile. Après, c'est des batailles. Il y a plein de choses. Mais, pour répondre directement à tes questions, j'ai une éthique personnelle. Il y a des trucs sur lesquels je vais pas vouloir travailler parce que je pense que c'est une aberration, d'accord. Donc c'est moi perso, d'accord. Après ça, je vais pousser pour des choses que je pense qui sont justes, d'accord. Et puis après, il y a ma vie professionnelle et puis il y a ma vie personnelle. Ma vie professionnelle, donc je pousse. Je suis pas forcément en situation tout le temps de gagner. Et ma vie personnelle, j'essaie de faire en sorte de faire attention. Par exemple, je suis effectivement un utilisateur vorace de la technologie. Quand je dis aux gens, j'ai 200 et quelques objets connectés à la maison. Alors, les gens se disent, mais c'est une aberration écologique par elle-même. D'accord? Donc, ça a l'air stupide de dire d'un côté, il faut faire attention à la façon dont on utilise la technologie et d'avoir 200 et quelques objets connectés. Oui. Mais mes 200 et quelques objets connectés à la maison aujourd'hui, ma maison est une maison complètement neutre, point de vue énergie. C'est-à-dire que j'envoie que très très peu de données en fait sur le cloud, d'accord. Tout est basé en local et ma maison est solaire, etc., etc. Donc elle fait en sorte que je sois complètement neutre en énergie. J'essaye. Des fois, il y a des jours où je suis pas complètement neutre, mais j'essaye d'être le plus neutre possible. D'accord? Donc, je m'applique ça aussi à moi-même et j'essaye de faire en sorte que ma famille, et puis j'évangélise tout ça, je raconte ça à des gens tout le temps, et c'est comme ça que j'essaye d'éduquer, d'apporter ma pierre pour faire en sorte qu'on fasse pas complètement péter la planète d'une autre manière que celle dont on aurait pu la faire péter dans les années 60.
Bien sûr. Et alors, il y a une question que je t'ai pas posée et tu vas détester y répondre, mais je vais te la poser quand même. Est-ce que tu pourrais, parce que je pense que les gens qui nous écoutent ne l'ont jamais entendu, nous raconter un peu, peut-être rapidement, l'histoire de Siri. J'imagine que tu l'as raconté 15 000 fois, donc j'imagine que c'est pénible. Mais...
Non, c'est pas pénible du tout. En fait, c'est un peu rigolo. C'est vrai que on m'associe un peu trop souvent à Siri parce que c'est comme ça. Mais parce que j'ai dirigé Siri, mais la Siri, ce qui est rigolo, c'est l'histoire derrière. L'histoire, c'est que Siri, ça date pas de 2010-2011, comme on peut le penser quand c'est sorti sur le iPhone 4S à l'époque. Siri, en fait, ça date de 1997. D'accord, avec mon ami Adam Shire, à l'époque, on a fait ce qu'on appelait The Assistant. Et SRI, Stanford Research Institute, on a créé un machin qui était un moteur de recherche, en fait, en quelque sorte. Hein. L'idée, c'était de dire, y a Internet qui arrive, hein, on est donc dans la fin des années 90, Internet arrive, on réalise que ça va être la plus grande base de données du monde et que ça va être compliqué à interroger. Et donc, du coup, on se dit, ça serait bien d'avoir un petit assistant qui va être là, qui va nous aider à interroger Internet. Et puis, ça serait encore mieux s'il était vocal, parce qu'il va comprendre ce qu'on dit, on n'a pas à s'embêter à taper sur le clavier. D'accord? Donc, ça a commencé comme ça, on a créé des assistants, les premiers brevets, donc, datent de, encore une fois, 1997. Ça a mis 13 ans à arriver au grand public, hein, donc il faut être patient quand on fait des choses comme ça. Il y a eu une boîte qui a été créée, cette boîte-là, elle a été donc créée en 2007, donc 10 ans plus tard, et puis après, c'est cette boîte qui a été rachetée par Steve Jobs, parce que Steve Jobs est celui qui a eu la vision de se dire, un assistant vocal, c'est peut-être pas idiot que ça soit sur un téléphone. D'accord. Nous, on n'a pas eu cette vision. Hein, on disait, bah, non, on était loin de ça. Mais c'est Steve Jobs qui a eu cette vision. Il a dit, bah, j'ai un téléphone maintenant qui commence à être un téléphone qu'on appelait smartphone à l'époque, donc déjà, mais qui n'était pas si smart que ça, d'accord. Et il s'est dit, bah, tiens, de toute façon, il y a un micro, il y a quelque chose, je peux parler. Si en plus, je peux parler au téléphone lui-même au lieu de parler à quelqu'un à travers le téléphone, ça serait rigolo. Donc, il a eu cette vision-là. On a été racheté par, la boîte a été rachetée par, par Apple. Moi, j'ai rejoint Apple à ce moment-là pour pouvoir diriger, parce qu'Adam Chayer, donc mon pote de l'époque, m'a demandé de venir diriger ça chez Apple. On a fait les premières versions de Siri sur le téléphone, donc le 4S, et puis on n'a pas vraiment pu développer exactement ce qu'on voulait développer. La vision de 1997, pour donner une idée, à l'époque, il y avait à peu près une trentaine de services, il y avait 35 services. Alors les services, c'est quoi? C'est pouvoir faire des réservations d'hôtels, pouvoir faire des, demander la météo, pouvoir faire un appel, des choses comme ça. Donc, il y avait 35 services à l'époque. Au moment où en 2011, donc c'est sorti, il y avait 5 services, d'accord? Parce que parce que il fallait que ça soit robuste, machin, etc. On a poussé pendant un an, un peu plus d'un an. Il y avait 6 services. Donc c'était très 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 compliqué de rajouter des services, de faire comprendre à mon patron d'époque, parce que Steve Jobs malheureusement était parti quand on est arrivé globalement, quand on a vraiment commencé, il est mort le lendemain du jour où Siri a été lancé. Et donc du coup, il y avait plus vraiment de visionnaires pour pouvoir pousser ces services. Mmh. Et nous, au bout d'un moment, on s'est fatigué, on est parti. Voilà.
D'accord. Super. Merci beaucoup, Luc. J'ai une dernière question, qui est toujours la question que je pose dans ce podcast, qui est, comme ce podcast s'appelle Vlan, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Alors, je veux claquer la porte à tous ceux qui racontent n'importe quoi sur l'IA quand ils n'en ont jamais fait. D'accord. J'en peux plus, j'en ai marre. Donc, Vlan, la porte très fort dans leur tronche.
Super. Merci beaucoup, Luc.
Merci, avec plaisir.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission,